Pour le partage de ce matin, je voudrais faire deux lectures. La première lecture dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David !» Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Et un texte un peu plus loin, dans Marc 14, nous sommes dans le jardin de Gethsémané. Judas est accompagné de gens armés qui viennent arrêter Jésus. Marc 14, verset 48, Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme qui le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Père éternel, nous voulons nous mettre devant cette parole qui a traversé les siècles et te dire merci, mais surtout te demander ton message, ce que tu as à nous dire ce matin, ce que tu as à me dire ce matin. Encore merci parce que tu t'occupes de nous. Nous sommes libres de lire, de proclamer ta parole encore aujourd'hui. Et pour ça, nous voulons te rendre grâce. Amen. Deux récits différents. L'un à Jéricho, l'autre à Jérusalem. L'un de jour, l'autre de nuit. Mais quand même, quelques points communs. Jésus, une foule en mouvement, un événement surprenant. Et dans chaque récit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un homme qui perd un vêtement. C'est justement sur l'abandon de ces vêtements que j'aimerais m'entretenir avec vous. Et premièrement, quel est le type de vêtements abandonnés ? Deuxièmement, pourquoi ces personnages ont-ils abandonné leurs vêtements ? Et troisièmement, nous verrons comment Jésus lui-même a été abandonné et a dû abandonner ses vêtements. Dès le départ, dans le jardin d'Éden, l'homme est nu. Et la parole nous dit, il n'en avait point honte. Mais hélas, le péché a tout renversé. Il a dû se couvrir. Lui, au début, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des feuilles. Et puis après, Dieu lui fournit le vêtement. Il sacrifiera un animal et lui fera des peaux de bête. Depuis la chute où Adam a dû se vêtir, jusqu'à l'Apocalypse où les élus recevront un vêtement blanc, on l'a chanté. La Bible n'a de cesse de nous parler des vêtements. On pourrait faire un défilé de mode en présentant les peaux de bête d'Adam et Ève, les riches vêtements d'Abraham, la tunique de Joseph, les robes du sacrificateur décrites dans le Pentateuque, les fautes de Samuel, l'armure de Goliath, les vêtements royaux de Saül, David, Salomon, le manteau de poil de chameau de Jean-Baptiste, l'armure des soldats romains. Le manteau a donc une importance capitale dans la parole de Dieu, comme si l'habit faisait le mal. Et dans l'Ancienne Alliance, c'est Dieu qui détermine lui-même, qui dicte les lois concernant l'habillement. Je vous lis quelques extraits, si vous voulez les références, vous les aurez. Exode 22, 9. Dans toute affaire frauduleuse, ça commence bien. comment concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est cela », la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Il y a une importance du vêtement. Exode 22, 26, 27. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il ? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Deutéronome 24, 17, tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Et la loi du Lévitique indique que si un vêtement est souillé, il peut être purifié. Lévitique 11, 32, tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé, ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau. Il restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Et s'il est souillé de la lèpre, là je vais pas vouloir tout lire, parce que c'est Lévitique 13, et il y a quelques versets à la rallonge, là il sera brûlé. Le vêtement est important. Et comme on a lu dans l'intro, Dieu a veillé sur les vêtements des Israélites pendant 40 ans. Souvenez-vous le verset que j'ai lu. « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. » Dieu, en quelque sorte, s'est adapté à la condition de l'homme, l'homme pécheur qui a dû couvrir sa nudité. Il était nu, un point honte, il pêche. Il en a honte. Alors, vous avez déjà vu certains reportages à la télé, on essaye de retrouver le paradis perdu en étant tout nu. J'ai des doutes, mais bon, peu importe. C'est même devenu dans la Bible un péché de voir quelqu'un nu. Et après le déluge, si vous vous souvenez, Noé sort de l'arche, il cultive une vigne, et puis il prend une quitte, comme on dit. Il s'enivre, et il est là dans sa tente, et il est tout nu. Il est nu. Et pour qu'on ne voit pas sa nudité, c'est son fils qui reculera avec le manteau pour jeter sur son père, dans Genèse 19. On ne peut pas voir la nudité. Il y a d'autres personnages. Hein. Jacob trompera son père aveugle en mettant des habits qu'il portait pour avoir l'odeur d'Ésaü. Joseph, lui, sera confondu, vous savez, avec sa tunique, avec la femme de Potiphar. Et là, il abandonnera aussi son manteau. Tamar changera son habit de veuve en voile pour se faire passer aux yeux de son beau-père, Judas, pour une prostituée, dans Genèse 38. David coupera un morceau du vêtement de Saül pour prouver qu'il a épargné sa vie. Élisée récupérera le manteau tombé lors de l'enlèvement d'Élie dans un tourbillon. Ah, le Nouveau Testament regorge aussi. Jésus, il est battu, il est emmailloté dans une crèche. Et ses vêtements deviendront blancs lors de la transfiguration. Et plusieurs toucheront le bord de son vêtement. Le jour de des rameaux, souvenez, on a étendu et des rameaux et des vêtements, et les soldats se sont partagés les vêtements de Jésus. Quand il sera sur la croix, j'ai déjà parlé de Jean-Baptiste avec son vêtement de poil de chameau, et l'homme possédé de Gadara, il sera tout. Le péché est là. Les vêtements d'Étienne seront mis de côté. On parlera des tuniques et des vêtements que fabriquait Dorcas. Vous avez toute la Bible. Allez chercher toutes les références dans Actes. Paul se courra ses vêtements quand il sortira d'une ville où il y aura de l'opposition, dans Actes 18. Et Paul demandera à Timothée de lui rapporter son manteau qu'il avait oublié, etc., etc., etc. On pourrait faire des études bibliques indéfiniment pour chaque vêtement. Mais ici, dans notre cas, Bartimée abandonnera quelque chose de tellement important. L'aveugle jeta son manteau. Pour rappel, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Non seulement Bartimée est aveugle, mais il n'a même pas d'identité. Il est décrit comme le fils de Timée. Effectivement, Bart, ça veut dire Bart, ça veut dire le fils de Timée. il n'a de référence que son père, c'est le gamin de l'autre. Et d'après un commentateur, Timé veut dire honoré, hautement estimé. C'est le fils de l'hautement estimé. Il faut trace quand même. Il est aveugle. Son père est apparemment très riche. C'est parfois lourd à porter. Le nom de son père, et c'est le fils d'Eddy Merckx qui disait lui-même l'hérédité est parfois encombrante. Peut-être que son fils n'arrivait pas à sa fille, mais quand même, c'est quand même quelqu'un. C'était le fils de l'autre. Pour dire que Bartimée, en fait, c'était pas grand-chose, quoi. Il était aveugle, il n'était pas grand-chose. Mais revenons à Jéricho. Et si on revient à Jéricho, c'est situé au gué du Jourdain, et c'est connu sur la ville des Palmiers, dans Deutéronome et Juges, une ville aussi luxuriante. Elle a été détruite par les Israélites, souvenez-vous, hein, ils ont fait le tour de Jéricho plusieurs fois. Et il n'y a qu'une seule personne qui a été sauvée. Bien vu, au frais de l'étude. Rahab. C'est bien. Je l'ai marqué pour le dire. Rahab a été sauvée de Jéricho. Et c'est également là que Jésus rencontre Zachée. Et selon certaines sources, ce serait une des plus anciennes villes connues, moins 8000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des traces de civilisation. Du temps de Jésus, Jéricho est une ville très florissante, un peu, je la compare un peu à Las Vegas, comme ça. Et Hérode le Grand, là, a construit un palais, une citadelle, et à sa mort, c'était même doté d'un hippodrome. Donc c'est pour dire que Jéricho était très importante. Mais, évidemment, où il y a du luxe, il y a toujours de la débauche. C'était aussi une ville d'amusement et où les mendiants, les malades et les aveugles, on les mettait dehors, ils n'avaient pas leur place. C'est en quelque sorte pour ça que Bartimée, lui, se retrouve obligé d'être sur le bord du chemin, hors de la ville, mais sur ce chemin où constamment est emprunté pour aller à Jérusalem, et c'est d'ailleurs là que Jésus va. Il finira à Jérusalem sur cette route. Mais pour Bartimée, c'est là, aussi sur cette route, que s'arrête le temps. Plus rien. Aveugle. Pas de famille. Tout s'arrête, le temps, l'espace. Il n'a donc plus aucun repère que son manteau. Son manteau, sa maison, sa couverture, son chez lui, si je peux dire. Et quand il entend que Jésus passe, il crie, il est peut-être aveugle, mais il n'est pas sous-bout, il n'est pas muet non plus. Et de plus, il connaît Jésus. Parce que si même il n'a jamais vu, il le connaît. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Et même si on veut le faire taire, il crie encore plus fort. Peut-être qu'il connaît le passage de Psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toute cette détresse. Et à l'appel de Jésus, transmis par la foule, Bartimée s'élève d'un bond, qui nous est dit. Imaginez, levé d'un bond, un aveugle. C'est complètement insensé. Vous savez que j'ai vu un petit... J'ai été ouvert les yeux, et pendant 3 jours, pas possible d'ouvrir les yeux complètement. Donc, mais c'est pénible. C'est pénible parce que ne fût-ce que de se lever... Imaginez que Bartimée est assis par terre, il jette son manteau, il se lève. Je sais pas. Essayez de faire ça, les yeux fermés. C'est complètement insensé, c'est un risque inconsidéré de perdre tous ses repères. En plus, il jette son manteau. Où est-ce qu'il est ? Mais rien n'y fait, il fonce, tête baissée, vers celui qui a et qui est la solution. Il en est tellement convaincu qu'il jette ce qu'il a plus précieux, en fait. Il jette sa maison, il jette son manteau. Tout ce qui représente tout, son passé, son ancienne vie, son hérédité. Peut-être qu'il a hérité ça de son père, on n'en sait rien. Il jette tout, il abandonne tout. Et nous ? Que devons-nous lâcher pour être guéris et ainsi suivre Jésus sur le chemin ? Que reste-t-il de notre passé qui nous fait rester sur le bord du chemin ? Quelle marque de nos parents ou nos ancêtres devons-nous pardonner pour pouvoir réellement retrouver la vue du Sauveur, Jésus ? Ce Souvenons-nous de ce jeune homme riche qui accoste Jésus et qui lui dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et le texte nous dit qu'il était tout triste parce qu'il avait de grands biens. Qu'est-ce qu'on doit lâcher pour suivre Jésus ? Sommes-nous prêts à jeter même tous nos repères, nos balises, pour nous mettre debout devant ce Sauveur ? Que devons-nous lâcher ? Dans notre deuxième lecture, notre homme attaqué, qui se sauve tout nu, ça m'a fait tellement bien rigoler quand j'étais gamin, ce passage, parce que je l'imaginais, mais bon, voilà. C'est certainement Marc, certains commentateurs disent que c'est Marc lui-même, parce que quelqu'un qui a vécu ça, qui peut écrire ça. Sinon, il ne marquerait pas. Il a vécu l'événement, mais pour eux, un tel détail, ça sent le vécu, quoi. Mais bon, voilà. Mais examinons le vêtement qu'il a sur le dos. C'est surtout ça l'important. Le texte nous dit en Marc 14, 51-52, un homme le suivait n'ayant sur le corps qu'un drap. Dans la nouvelle français courant, c'est un petit peu plus détaillé, c'est mieux. Il met un corps d'un drap de lin. On se saisit de lui, mais il achète son vêtement, etc. Il y a plusieurs définitions possibles pour le mot qui a été traduit par drap. Un vêtement léger ou ample porté la nuit sur un corps dénudé, comme ici dans notre texte, une sorte de robe de nuit. Il se baladait la nuit, robe de nuit. Qu'est-ce qu'il veut, hein ? Et puis une deuxième possibilité, c'est une étoffe de lin fin, ici aussi le cas du lin, et coûteuse dans laquelle était enveloppé le corps d'un mort. Un linceul ou un suaire. Ça m'étonnerait qu'il se balade avec un linceul. Alors, évidemment, c'est aussi utilisé dans Marc 15-46, exactement le même mot, drap. Je vous lis. Et Joseph d'Arimathée, ayant acheté un linceul, dans certaines versions un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa d'un linceul ou d'un drap, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Donc le mot traduit donc par drap dans notre récit, ailleurs traduit par linceul. C'est bien compliqué ça maintenant, hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors est-ce que c'est un drap de nuit, une robe de nuit, un linceul, ou peut-être les deux, on n'en sait rien. Donc c'est un peu délicat. Donc ce jeune homme était vêtu seulement d'un habit de nuit ou un habit de mort. Qui sait ? Et même quand on parle de ça, même dans les nuits les plus sombres, même dans la nuit la plus sombre de Jésus, lui, il est resté la lumière. Mais pour l'heure, pour Jésus, c'est l'abandon. Marc 14, que nous avons lu alors, tous, il y a bien marqué tous, aucun, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et le jeune homme, qui n'avait que sur le dos son drap, lui, il a chou, il jette. Enfin, je n'en sais rien. Il perd. Et il s'en va. Tous abandonnent Jésus. Alors, je me suis dit, suivre Jésus à tout prix, ça peut être dangereux quand même. Il faut s'attendre peut-être un jour à tout lâcher. Même ce qui nous reste sur le dos, mais surtout si c'est un vêtement de ténèbres ou de mort. Vouloir suivre Jésus à tout prix, c'est être mis à nu un jour. Alors quel prix ? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ?» Jean, en quelques heures, a tout perdu. Adieu, bœuf, âne, brebis, chameau, serviteur, fils, fille, et même sa santé. Tout en deux jours. Alors vouloir suivre Jésus à tout prix, c'est être conscient de ses limites. Tous l'abandonnèrent. Croire qu'on va faire mieux que les autres nous amènera à prendre la fuite parfois tout nu. Je me souviens qu'on avait une discussion sur Adam et Ève et un étudiant qui disait « Ouais, mais si Adam n'avait pas fait la bêtise, on n'en serait pas là. » Et si nous, on avait été à sa place, là-dedans, hein ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Alors vouloir suivre Jésus à tout prix, c'est être confronté aussi avec le chant du coq, comme Pierre quelques versets plus loin. Vouloir suivre Jésus à tout prix, c'est se savoir aveugle, élu, mais certainement compter sur sa grâce et sur le sacrifice accompli pleinement pour nous vivre. Et justement, le jour de ce sacrifice, le jour où Jésus mourut, voilà ce qu'il nous est dit dans Marc 15, un peu plus loin, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui le remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Le pourpre couleur de la royauté. Les soldats ne pouvaient faire mieux. Ils reconnaissaient Jésus comme roi. Ils pensaient se moquer de Jésus comme roi. Mais il disait une vérité. Il était réellement le roi des rois. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort avec qui, à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Ça veut dire, ils se sont servis. La loi romaine, à l'époque, autorisait le bourreau à prendre ce que le condamné portait sur lui. Ce que firent les soldats, c'est tout à fait légal vis-à-vis de la loi romaine. Mais là où on voit une confirmation de l'Écriture, c'est que le psaume 22, verset 18, a été écrit bien avant que les Romains ne soient au pouvoir. Alors cette prophétie ne pouvait être prédite que par notre Dieu. Psaume 22, 18, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Il ne savait pas que c'était légal à cette époque-là. Alors nous trouvons également ceci au début du psaume 22, au chef des chantres, psaume de David, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Jésus est sur la croix, dénudé, abandonné. Tous l'abandonnaient. Et les soldats, après avoir crucifié, je répète encore une fois, prirent ses vêtements, firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et dirent, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et tirés au sort ma tunique. Ici, le mot tunique, qui apparaît deux fois, était traduit au départ par deux mots différents dans l'original, qui n'apparaît pas dans la version seconde, mais qui apparaît dans la version Nouvelle France et Courant. Il fait une différence entre les deux. Ils prirent sa tunique, c'est aussi un sous-vêtement étroitement ajusté, porté habituellement à même la peau. Donc c'est là, tout ce qui est en dessous et qui se porte au ras de la peau. Et par moment, surtout pendant le travail, c'était le seul utilisé pour travailler. C'était plus facile, apparemment. Les autres vêtements qui expriment le manteau large qu'on peut remettre au-dessus. Donc, Jésus, apparemment, avait plusieurs vêtements. À l'époque, c'était court, quoi. Afin que s'accomplisse l'Écriture, ils ont tiré au sort ma tunique. Et ici, le mot tunique ne signifie plus un vêtement spécifique, mais l'habillement avec un emploi fréquent pour des vêtements plus ou moins amples et parfois majestueux et coûteux. Donc, on avait c'est juste au corps, et puis la cape qui est peut-être beaucoup plus riche au-dessus. On pourrait relire un peu ce texte. J'aurais pu prendre la France et Courant parce qu'elle est claire. C'est un peu, voilà, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements extérieurs, ils en firent quatre parts, et une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, son sous-vêtement, qui était sans couture. Ne le déchirons pas, mais tirons au sort. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, courants, extérieurs, et ils ont tiré au sort mon vêtement de corps. Voilà. Pourquoi insister là-dessus sur la différence? C'est que, si je résume un peu le développement, avant de le crucifier, les soldats mettent sur le dos de Jésus un vêtement royal. Il est le roi. Et pendant qu'on le crucifie, alors qu'il est nu, les bras étendus, portant le poids du péché du monde, portant le poids de nos péchés, il observe le jeu des soldats, et ceux-ci tirent au sort sa tunique, son simple vêtement, ou simple habit, ou simple vêtement de grand prix. Plusieurs possibilités. Que voyons-nous dans cette image? Quel vêtement les soldats ont-ils brisé, cassé? Celui du roi ou celui du simple travailleur? Et pareil, je me suis mis à la place. Si j'avais été un des soldats, quelle était mon attitude? Un peu comme si j'avais été Adam, quelle aurait été mon attitude? Est-ce que j'aurais tourné la royauté de Jésus en ridicule? Oh, je te couvre de pourpre, je te fais roi, mais t'occupe pas de mes affaires. Hein? Reste bien sur la croix, reste là. Ce n'est pas toi qui es roi, c'est moi qui te fais roi. Je te mets le vêtement. Et tiré au sort sa tunique, mais laquelle? Celle qu'on garde pour le travail? Ou celle qui est majestueuse? Ça dépend du jour. Hein. Le dimanche, je choisirais de le mettre en majesté, mais en semaine, devant mes collègues, restons discrets. Devant mes voisins, mes connaissances, mes amis, Jésus, mets ton habit de travail, tu passeras mieux. Pourtant, c'est ce Jésus qui meurt pour moi. Ne serait peut-être qu'un enjeu de pile ou face, suivant l'endroit où je me trouve, ou le temps où il est. Ce Jésus qui me fait retrouver la vue, si je lui abandonne tout, même mes plus précieux repères. Ce Jésus. Ce Jésus qui me délivre de mes vêtements de ténèbres et de mort, même s'il doit me laisser fuir complètement nu. Ce Jésus. Ce Jésus que je ne connais peut-être pas vraiment. Qui est-il? Et je vous relis ce texte que j'ai déjà lu plusieurs fois ce dernier dimanche, Philippiens 2,6, lequel, Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie et arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce Jésus prend la position de serviteur, rempli d'humilité et d'obéissance, pour me rendre ma liberté, me rendre ma dignité, me rendre mon identité. Ben, bref, lui, il se dénude complètement pour moi. Alors, sommes-nous prêts à jeter notre manteau, même si on ne voit pas où on va, pour le suivre? Sommes-nous prêts à tout jeter? Sommes-nous prêts à approcher tellement près de lui pour le suivre qu'on pourrait se retrouver complètement nu sans rien? Pourrions-nous être suffisamment humble et obéissant pour le suivre jusqu'au bout, sachant quand même qu'à la fin, un vêtement blanc nous attend et une cour de gloire nous est réservée. Qu'en pensez-vous? Je voudrais terminer avec un texte de Zacharie. Il y a beaucoup de textes, mais vous pouvez avoir les références. Texte que j'apprécie énormément, Zacharie 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ah, l'accusateur, hein, toujours là, oui. Hein. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, Je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et mire un turban pur sur sa tête et lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. On a peut-être l'impression d'être au bord du chemin, d'être un peu aveugle ou même dans le brouillard complet. On a peut-être le sentiment d'être nu. Pourtant, certaines expériences avec le Seigneur nous ont couvert, nous ont fait avancer. Des expériences où on s'est donné à fond, prêt à aller jusque la mort s'il le fallait. Mais le malin nous a découragés. Il était là. Tu vois ? Est-ce qu'il a vraiment dit ça ? Et nous nous sommes laissés peut-être dévêtir. On a peut-être la sensation d'être sale, d'avoir des vêtements en lambeaux. Non, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Alors, ce Sauveur, écoutez-le. Voici ce qu'il dit, l'ange de l'Éternel dit dans ce passage, si ça vous a frappé, « Vois, je t'enlève ton iniquité. » Il enlève le vêtement, il te dit « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêt d'habit, de fête. » Et comme Bartimée, il dira « Va, va, ta foi t'a sauvé. » Alors puissions-nous prendre conscience que ce Jésus, par son sacrifice, veut nous revêtir d'habit de fête, parce qu'il a enlevé notre iniquité. Et alors, on pourra rechanter ce chant joyeux, tout joyeux, nous marchons vers le ciel. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons te louer, te rendre grâce, parce que toi, tu as tout fait pour nous enlever notre iniquité, notre vêtement sale, notre vêtement qui colère notre peau, qui ne convient pas, pour nous revêtir de ta gloire. Merci Père, parce que nous pouvons ouvrir les yeux et te regarder, parce que nous ne sommes plus aveugles. Oh Seigneur, que nous puissions vraiment te glorifier pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen.